In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Dans ce rendez-vous radiophonique, j'essaye de donner la parole à la plus grande diversité possible, mais la fréquence de l'émission, tous les 15 jours, fait que la disponibilité des invités que je pressens n'est pas toujours synchrone avec mon agenda. Et donc, malgré ce qu'elle prétend être, cette émission n'arrive pas à donner la parole à toutes et à tous, et j'en suis le premier désolé. Et puis pour introduire aussi cette émission, dans les invités que j'ai eus, il y a eu un monsieur qui s'appelait Jacques Armand Cardon. Et j'ai une pensée pour lui parce qu'il est décédé dimanche dernier. Cardon, c'était l'un de nos grands dessinateurs de presse. Je l'avais reçu à deux reprises dans l'émission pour son album Cathédrale et pour le recueil de ses dessins intitulé Ras-le-bol. La rencontre avec cet homme fut très belle et elle m'a profondément marqué. Je le remercie encore de la confiance qu'il m'a accordée, lui qui était si impressionné par le micro que je lui tendais à ses 84 ans. Bien entendu, toutes mes pensées vont vers sa famille et puis sa si gentille compagne. C'était le moment de recueillement nécessaire parce que cet homme, je le dis, m'a vraiment beaucoup marqué. Au menu du jour, l'écriture à 360 degrés. Elle et il sont trois, en résidence à la maison Julien Gracq. Antonin Crène, romancier, Mathilde Doézier, journaliste indépendante, Emo Thiria, poétesse. Ce sont trois voix, mais il faudrait plutôt parler de trois souffles. Souffle dans son acception de puissance. Chacune et chacun à leur manière justifie l'écriture. Elle et il montrent qu'écrire n'est pas anodin, que cet acte porte une part de risque au plus grand bonheur du lecteur. Vous écoutez Entre les pages, c'est vraiment une chance que vous avez, ça commence maintenant. Et plutôt que de parler d'eux, il vaut mieux parler avec, donc place à vous trois. Et bonjour Antonin Crène.
Bonjour.
Bonjour, on s'approche bien du micro, on est à la radio, il faut que le monde entier vous entende. Vous venez de publier Rue des Batailles aux éditions Actes Sud. Rue des Batailles, c'est le début d'un écheveau romanesque et familial. Et si j'utilise le terme d'écheveau, c'est que ce roman est quasi labyrinthique. Il essaye d'élucider la disparition en 1869 de Jules, un de vos ancêtres. Ce Jules, comment vous en avez fait la connaissance ?
Jules, en fait, je ne sais pas grand-chose sur lui, donc je ne sais même pas si j'ai fini par faire connaissance avec lui. J'ai découvert son existence en même temps que j'apprenais qu'il avait disparu. C'est-à-dire que j'ai vu cette mention disparue, ou plutôt absence en nouvelles. C'est comme ça que c'était rédigé sur un acte administratif, alors que ma mère était en train de faire son arbre généalogique. Ma mère ignorait à peu près tout de ce qui s'était passé dans sa famille avant son propre père. Elle a eu un jour cette curiosité, comme beaucoup de gens. Elle a fait un arbre généalogique et elle a trouvé un certain Jules qui, un jour, a disparu. Bon, ça m'a intéressé, ça ne m'a pas passionné, mais...
Ah bon ?
À l'époque. Et j'ai redécouvert, en fait, ce travail qu'avait fait ma mère peu après la mort de ma mère, justement. Et là, d'un seul coup, de voir que... quelque part, un jour, un homme avait disparu et avait laissé un vide auprès de ceux qu'il avait aimés. Ça m'a parlé. Et plutôt que d'écrire directement sur ce que j'étais en train de vivre, sur ce deuil, je pense que je n'étais pas prêt. Peut-être que ce n'était pas nécessaire non plus de l'écrire aussi directement. Je me suis dit, on va plutôt essayer de savoir ce que ça a fait à tous ces gens qui ont connu Jules en 1869, un jour de constater qu'il n'était plus là et de continuer de vivre malgré tout.
de constater qu'il n'était plus là, que le constat soit administrativement fait 12 années, 13 années après ?
Je ne sais plus précisément moi-même.
Alors moi, je l'ai lu, ça doit être 13 années après, je crois. C'est 69, et puis bon, ça nous ramène au... Bon, donc voilà, c'est foudroyant, parce que le roman commence par « Jules a disparu ». Voilà. En fait, il s'appelle « Un homme qui s'appelait Jules Prosper et le nom de famille, c'est un de mes ancêtres, il a disparu ». C'est comme ça que le roman commence. Et on ne sait pas dans quelle aventure on s'engage. Parce que c'est une aventure, pour moi, une aventure de lecteur. Parce que j'ai lu vos autres livres, j'ai lu... J'ai lu « L'épaisseur du trait », j'ai lu « Terminus provisoire », et pourquoi je n'ai pas été surpris de lire « Rue des batailles » parce que je n'ai pas été surpris. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un dispositif dans votre écriture ? Parce Absolument. Que c'est une écriture très particulière.
Pour « Rue des batailles », beaucoup plus que dans les autres livres, oui, en effet. J'ai toujours plus ou moins des contraintes. J'aime bien travailler avec des contraintes, mais ce n'est pas forcément très visible dans ce que je fais d'habitude. Là, pour Rue des batailles, je savais que pour pouvoir parler de l'absence de ce Jules, il fallait que je reconstitue le monde dans lequel il a vécu. Donc je savais que j'allais avoir une masse documentaire énorme. Et je ne savais pas comment donner une forme de roman à tout ça. Donc il fallait que je la décide, cette forme. Et c'est là qu'en effet, il y a un dispositif, il y a même un cadre qui est extrêmement sévère. Mais qui me permet de tout accueillir. Donc c'est à la fois très sévère et très libre, et c'est là que je me suis dit, ça y est, je peux commencer. Donc concrètement, je me suis dit, puisque mon sujet, c'est ce manque, ce trou qu'il a laissé, eh bien, considérons que ce roman est un puzzle, et il y a un trou en plein milieu. Mais quand on construit un puzzle, pour s'apercevoir qu'il manque une pièce, il faut l'avoir terminé. Donc ça a justifié mon désir d'écrire beaucoup, puisque... Voilà, un puzzle. Le plaisir qu'on prend à faire un puzzle, c'est long. Un puzzle qu'on fait en 3 minutes, c'est pas...
Ça n'a pas grand intérêt.
Donc, j'avais beaucoup de personnages, beaucoup d'informations documentaires, et le désir de faire un roman un peu foisonnant, et cette forme que j'ai trouvée, donc ce dispositif de contraintes, justifiait tout ça, en fait. Je me disais, c'est pas juste un caprice de vouloir avoir plein de personnages. C'est nécessaire, puisque la forme que j'ai décidée m'impose d'avoir un tableau avec 9 cases sur 9, ça, c'est un peu arbitraire, mais il fallait qu'il y ait beaucoup de cases pour qu'au milieu, je puisse retirer une pièce.
Alors, pourtant, moi, je dis qu'il y a similitude dans l'écriture. Vraiment, hein, c'est terminus provisoire, enfin, l'épaisseur du trait. Alors, peut-être que même l'épaisseur du trait, c'est encore un dispositif un peu différent. Il faudrait qu'on puisse en parler. Je pense qu'on n'en aura pas le temps, mais ce dispositif est trop génial. Enfin, ce roman est trop génial. Mais pour revenir à Rue des batailles, l'écriture, c'était l'envie de comprendre la disparition ou alors la possibilité que cette disparition offrait en termes narratifs.
Alors, comprendre la disparition, j'ai compris très tôt que, en tout cas, ça ne consisterait pas à élucider les conditions de la disparition. Ce ne serait pas de savoir ce qu'il est devenu. Ça pourrait être un bon roman policier de mener cette enquête, mais ce n'est pas mon projet. Et en fait, ce n'est pas ça qui m'anime intimement. Moi, ce dont je voulais parler, c'est qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un était là et qu'il n'est plus là, quelles que soient les raisons. Donc, je me suis dit que c'était déjà un sujet assez gros de comment on vit avec un manque à côté de soi, que d'essayer de comprendre la cause de ce manque, c'était encore un autre sujet. Donc, voilà. Comprendre la disparition, pour moi, c'était ça. C'est comprendre ce que ça nous fait à nous, les restants, de vivre avec un fantôme. Il y avait une deuxième partie dans votre question.
La deuxième partie, c'est il y a deux possibilités, c'est-à-dire comprendre la disparition, et puis on écrit, effectivement, en tentant presque de mener une enquête policière, ou alors se dire qu'il y a une possibilité narrative extraordinaire. Parce que moi, pour l'image que j'ai essayé de trouver, je me suis dit, c'est un roman à la marabout de ficelle. Oui. C'est-à-dire, on prend un truc, et puis on rebondit sur un autre, et puis ça rebondit encore sur un troisième. Ou alors, c'est comme une pensée un peu qui divague. On pense à un truc, puis hop, on pense à un autre. Enfin, oui. C'est comme ça que ce roman est écrit.
Oui, tout à fait. Alors, ce phénomène de rebond, il est évident. Quand je trouve un personnage, en fait, on a tous connu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, c'est un lieu commun. Mais si le monde dans lequel a vécu Jules continue de tenir alors que Jules n'est plus là, c'est parce que justement, il était pris dans un écheveau, c'était votre mot, de relations tellement complexes, mais comme chacun d'entre nous, que en fait, c'est aussi une des choses qui est révoltante dans le deuil, c'est que quelqu'un qui nous était indispensable disparaît, et pourtant le monde continue de tourner, ce qui est atroce. Et on voudrait que le monde s'effondre, et pas du tout. On a retiré ce qui était le plus précieux, et ça marche quand même. Parce qu'en fait, on était pris dans un réseau tellement complexe, on connaît des tas de gens, on a vécu dans plein de lieux, on a laissé des traces partout. Et donc, il fallait que je rende compte de ça. Ça, voilà, je pense que j'avais besoin d'exprimer ça. Et après, en termes de possibilités narratives, bien sûr, je pense que le manque fait avancer. De toute façon, il y a un trou, il faut le combler. Et que ça, je l'ai compris à mesure que j'écrivais le texte. C'est que j'avais besoin de combler le vide, tout simplement. Mmh. Le livre est foisonnant parce qu'il faut remplir. Quoi.
Mmh. Alors... au-delà des conditions, des circonstances, là aussi, parce que quand on lit un livre, on essaye de le mettre quelque part ou de le comprendre dans sa globalité. La seule conclusion que moi, à laquelle je suis arrivé, c'est un livre-monde. Et c'est impressionnant, parce qu'à partir de la rue des Batailles à Paris, rue qui n'existe plus, on va rencontrer Mac Mahon, on va rencontrer toute la tribu des Bonaparte, on va rencontrer Berthe Morisot, on va rencontrer Delsarte, le compositeur Delsarte, on va rencontrer Louise Michel, on va rencontrer Don Quichotte, on va rencontrer Poincaré. Donc, pour essayer de faire comprendre, parce que la fin du livre, c'est 4 ou 5 pages de références de noms. C'est-à-dire que vous avez tenu à ça, c'est-à-dire... mettre l'intégralité des noms qui ont été utilisés dans le roman. Pourquoi cette volonté ? Parce que c'est vraiment un écheveau, c'est inextricable.
Alors, je me suis documenté dans des archives.
Oui.
Y a des gens qui laissent plus ou moins de traces dans les archives. Les noms que vous avez cités là, c'est ceux qui en laissent beaucoup. Et ils m'ont été nécessaires pour pouvoir parler des gens qui, eux, en ont laissé peu. Parce que si je sais peu de choses sur Jules qui a vécu dans la rue des Batailles, par contre, je sais que Balzac y a vécu aussi. Donc, quand je lis la biographie de Balzac, les pages qui concernent l'année où il a vécu rue des Batailles, j'apprends des choses sur la rue des Batailles. Donc, indirectement, j'apprends des choses sur Jules. Donc, dans le halo de ces grands hommes, et là, je mets tous les guillemets nécessaires, je vois plein d'autres personnes. Des hommes qui ont laissé moins de traces et des femmes qui laissent encore moins de traces que les hommes qui en laissent peu. Donc, j'ai eu besoin de me raccrocher à ces figures-là, qui sont en fait pas celles qui m'intéressent le plus, mais en fait, elles sont des jalons qui m'aident à comprendre une époque, à condition d'aller fouiller, par contre, les invisibles qui sont cachés derrière. Et l'index qui est à la fin, là, c'est un jeu, bien sûr. Hein.
Oui.
Mais il y a aussi bien donc, des personnes très connues, des gens, je n'ai pas la moindre idée de qui ils sont, mais leur nom est cité dans le livre parce que je les ai trouvés dans des archives. Donc, c'est un voisin de Jules qui vivait aux Trois rue des Batailles. Bon, il est dans l'index. Et il y a mes intimes aussi, mes amis. Et je disais que je me documentais dans les archives publiques, mais en fait, je crée une archive en écrivant ce livre aussi. Ce qui laisse peu de traces, je le disais, c'est certaines vies considérées comme moins importantes, laissent moins de traces, mais certaines relations aussi. Les relations de famille sont consignées pour toujours. Même si vous n'avez plus aucun contact avec votre sœur ou votre mère, l'état civil va la conserver, ça. Vos amis ne seront pas consignés. Moi, mes amis sont dans le livre, dans l'index à la fin.
Alors, j'ai pas vérifié qu'il y avait Jean-Eudes.
Si, bien sûr.
Si, il y est.
Si, mais alors, justement, les personnes qui me sont intimes sont dans le texte nommées par leur prénom, parce que c'est comme ça que je les appelle.
Oui.
Dans l'index, ils sont au nom.
D'accord.
Donc, il faut le chercher.
C'est plus compliqué.
Voilà.
Combien de temps de documentation ? Parce que c'est effrayant. Enfin, moi, ça, chaque fois que je lisais un truc, je me disais, mais... il est allé dans tel endroit, à Tours, il est allé... Enfin, vous êtes allé peut-être à Madrid, enfin, je ne sais pas, mais enfin, c'est impressionnant. Ça vous a pris combien de temps, ce travail documentaire, pour construire ce roman ?
D'abord, pendant un an ou deux, c'était seulement des recherches documentaires. Je savais que je voulais écrire un livre, mais je n'avais pas la moindre idée de par quel bout le prendre. Et jusqu'à ce que je trouve cette forme, dont je parlais tout à l'heure, ce cadre, il y a des cases, il y a une case manquante. Là, je me suis dit, maintenant, tu peux écrire ce livre. Parce que justement, ça me permettait aussi de ne pas l'écrire dans l'ordre. Je savais d'avance le nombre de chapitres, je pouvais les faire un peu quand j'étais prêt à les faire. Et les recherches documentaires ont été poursuivies en parallèle. Mmh. Donc c'est un travail de 5 ans, mais peut-être 3 ans d'écriture. Mais les recherches, il y a 15 jours, j'ai repris des recherches alors que le livre est fini. Parce que
il faut que les gens comprennent, c'est que vous renvoyez même à des chapitres. Ça, je l'ai dit à tel chapitre, ou ça, on va le voir après. Enfin, et il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas un continuum temporel, hein, il n'y a pas aucune chronologie. Puisqu'on procède par rebond, on navigue dans le temps, on navigue dans l'espace. Enfin, c'est un roman dans lequel j'ai été pris comme dans une nasse. À un moment donné, je ne pouvais pas quitter ce roman. Donc, je l'ai lu, je pense, à partir de la page 100, j'ai tout lu d'une traite. Quoi. Enfin, j'ai...
Wow.
Je ne pouvais pas en sortir de cet adverbe. Pas tant pour savoir ce qui advenait de Jules, puisque je sais qu'il a disparu. Mais comment ça... Enfin, il y a une hypnose au travers de cette écriture. Et justement, je vous propose d'en lire un extrait.
Alors, vous m'avez proposé de lire celui-ci.
Voilà, c'est ça, oui.
Qui vient, juste un petit peu de contexte, qui vient à la fin d'un chapitre où là, je cite énormément de noms, justement, qui sont tous les habitants de la rue des Batailles que j'ai pu retrouver. Donc... ça se termine comme ça. Je voudrais citer tous les noms des hommes et des femmes qui ont habité la rue des Batailles aux environs de 1860. N'en oubliez aucun, n'en inventez aucun. Le même air circulait des poumons de l'une aux poumons de l'autre. J'en ai la certitude, des preuves même. Un va-et-vient circulaire, un puissant brassage de particules, organiques autant que sociologiques. Revenu à son point de départ, l'onde marquerait une pause. Le café Bergeron, au coin de la rue de Longchamp, c'est-à-dire au numéro 2 rue des Batailles, face au 1 où vit la famille d'Elsart. On choisirait une table avec vue, aussitôt contre la vitre. L'apprenti baryton Saint-Albe vient de commander un boc à Henri, le patron, avant sa leçon de déclamation. Pour se donner du courage, le jeune homme est timide. Il espère que le travail de sa voix l'aidera à prendre confiance. Il déglutit sa mousse, les bulles prisonnières soudain dans son corps se libèrent, et observe les passages. Il est curieux. Il connaît les silhouettes, les allures, les pas caractéristiques de François, qu'il appelle le beau vieux, de Rosine et de leurs enfants, Adrien, Xavier, Elisabeth, Madeleine, et puis de Jules, naturellement. Je n'ai pas inventé Jules. Si Jules n'avait pas existé, je n'existerais pas non plus, car il a fallu le corps de Jules pour que le mien soit conçu 150 ans plus tard. Les archives enregistrent les coordonnées d'une date et d'un lieu, ceux de la naissance, du mariage et de la mort, une adresse et une profession, les batailles où l'on a combattu. C'est tout. Une sorte de mémoire exacte et sèche. Mais le personnage de Saint-Albe, je l'ai trouvé dans la nouvelle d'Alphonse Daudet, Une leçon, sous-titrée « Souvenir d'un page de l'Empire ». Pour les souvenirs inventés, il y a la littérature.
Merci Antonin Crène. J'avais dit dès le début que ce serait très, très court. On arrive à la fin de cette... pour chacun de vous trois, ça mériterait beaucoup plus de temps. Je suis désolé. Le temps imparti, le gong n'a pas sonné parce qu'on n'est pas si brutaux que ça. Je vous remercie pour cette lecture. C'est vraiment un beau roman. Donc, ça s'appelle La rue des batailles. Non, ça s'appelle Rue des batailles. C'est publié aux éditions Actes Sud. Et là, on va faire une pause musicale.
Aidez-le, moi, où il a foutu toutes les photos, celles du frigo. Je te comprends plus, tu l'as aidé à tout ranger. Putain, t'es con, t'as pris la peine de faire des cartons. C'était les miennes. T'avais raison.
Faut pas que tu craches. Moi j'ai déjà fait. J't'ai oublié. Y'a déjà un bail. Faut pas que tu craches. C'est peut-être pas vrai. J't'ai oublié. Et quoi te dire, ça me saisit encore la nuit. Pas faute de lire,
toutes les histoires, celle du grenier, la jolie place que tu as prise et puis laissée, descendre encore et remonter. Le temps m'a fait et apprécié, lui il était. Faut pas rêver,
faut pas que tu traces. Moi je l'ai déjà fait, je t'ai oublié. Y'a déjà un pas, faut pas que tu traces. C'est peut-être pas. Faut pas que tu craches. Oh.
J'ai déjà fait.
Moi j'ai déjà fait.
J'ai oublié.
J'ai oublié. Faut pas que tu fasses. C'est peut-être pas mal. J'ai oublié. J'ai oublié.
C'était Deva Hall qui chantait Crash. Et vous écoutez Entre les pages, et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Eh bien, après Antonin Crène, je donne la parole à Mathilde Doisy. J'ai réussi du premier coup, là, cette fois-ci, à dire son nom. Bonjour, Mathilde.
Bonjour.
Changement d'ambiance avec vous, Mathilde. Vous êtes journaliste indépendante. Eh bien, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ah, la question la plus difficile.
Tout le monde répond ça. Je ne l'ai pas demandé à Antonin, mais je la demande à vous.
Je suis journaliste indépendante, donc ça veut dire que je travaille pour différents médias. Donc je suis dépendante finalement de différentes rédactions. Je travaille comme journaliste indépendante depuis 5 ans, sinon je suis journaliste depuis un petit peu plus de 10 ans. Et je suis spécialisée sur la couverture des enjeux écologiques, principalement. Et c'est notamment ce qui m'amène à la maison Julien Gracq.
Le goût ou la passion du journalisme, c'est venu d'où ou de qui ?
Ah, ça, c'est très dur à dire.
Je pose que des questions difficiles,
non,
finalement.
Non, mais en fait, si je peux répondre, parce que j'en ai parlé à des étudiants il n'y a pas si longtemps. En plus, une anecdote un petit peu rigolote, parce que je pense que le goût et la passion du journalisme est associé au goût et à la passion du Nutella dans mon enfance.
Alors, en termes d'écologie, c'est bon, là. Là, vous cogez toutes les...
C'était pas génial.
Huile de palme.
Ouais. Non, mais en fait, mes parents étaient tout simplement abonnés à Ouest France. Et du coup, il y avait le journal à la maison et je consultais le journal tout pendant que je mangeais mon goûter. Donc, pour manger le plus de tartines possible, je lisais le journal en entier. De la dernière à la première page, c'était mon credo. Et voilà, je pense qu'il y a un petit côté comme ça, voilà, pour l'anecdote un petit peu rigolote. Après, je pense que je suis quelqu'un qui est hyper curieuse. Je ne sais pas à quel point j'étais agaçante en tant qu'enfant à demander des pourquoi, mais voilà, j'adore poser cette question. Pourquoi ? Comment ? J'adore comprendre comment les choses fonctionnent. Et je pense qu'être journaliste, il y a eu des moments dans mon adolescence où j'ai voulu devenir prof. Je pense qu'être journaliste, c'est aussi un rôle de transmission. Donc c'est soi-même peut-être assouvir sa curiosité, mais aussi essayer de transmettre ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, pour que les gens qui ont peut-être moins le temps que nous réussissent à mieux comprendre le réel qui les entoure.
Autre question difficile. Est-ce qu'il y a une fois qu'on se dit oui, c'est cette voie-là dans laquelle je vais peut-être cheminer, est-ce qu'il y a des grands reporters qui vous ont fait rêver?
Je pense que je ne suis pas du tout arrivée au journalisme par ce biais-là. Je viens de vous le dire, hein, c'est vrai que c'était quand même par Ouest France, même s'il y a aussi d'excellents articles dedans. En fait, je suis arrivée au journalisme plutôt par la culture. Et du coup, c'est quand même finalement un point commun avec mes deux camarades assis à côté de moi. Moi, j'ai longtemps hésité à travailler soit dans le secteur culturel, soit dans le journalisme. Et en fait, au tout début de ma carrière, j'ai plutôt réuni les deux. Donc je suis devenue journaliste culturelle, en tout cas j'ai étudié le journalisme culturel et mon premier stage d'ailleurs était à Angers dans le magazine Le Céno qui a longtemps œuvré ici.
L'indispensable à un moment donné, Le Céno,
ouais.
Aujourd'hui le métier de journaliste est fortement chahuté, hein, on peut dire ça?
Ah oui, je pense qu'on peut clairement le dire.
Ouais, c'est dans le travail indépendant qu'on peut le mieux s'exprimer en tant que journaliste.
je sais pas, en tout cas pour moi, oui, c'est la voie que j'ai trouvée pour peut-être en tout cas atteindre une manière de pratiquer le journalisme qui me correspond le plus et que j'ai envie de défendre le plus. Après, c'est aussi lié au fait que les postes peut-être de grands reporters qui sont les plus emblématiques et ceux qui font le plus fantasmer sont très très rares.
Ils sont déjà pris.
Voilà, ils sont très difficiles à décrocher, quasiment uniquement parisiens, pas seulement, mais moi en fait, c'était un choix en tout cas de devenir journaliste indépendante après une précédente expérience en rédaction. J'avais envie justement de pouvoir faire des formats longs, de faire du terrain, de faire soit de l'enquête ou de l'analyse, mais d'avoir aussi de la rencontre ou beaucoup de réflexion. Et ça, on le trouve notamment dans la presse écrite, dans des magazines. Et pour ça, ces magazines, en fait, souvent leur équipe permanente, elle est assez réduite. Par contre, du coup, pour écrire toutes leurs pages, ils ont besoin de journalistes indépendants comme moi.
Alors, on discute là en ce moment et puis on peut s'accrocher à rien. Donc, on va essayer de contextualiser, comme on dit dans le journalisme. Vous travaillez pour quel média ?
Et pour plusieurs. Donc moi, je suis basée à Nantes. Je travaille notamment à Nantes pour un magazine qui s'appelle Les Autres Possibles, qui est un magazine qui s'axe vraiment sur les solutions, plus trop les solutions d'ailleurs, pardon, parce qu'on a une nouvelle formule. C'est vraiment un magazine qui essaye de croiser les enjeux sociaux et écologiques ensemble. Donc on essaye d'avancer en portant des longs récits maintenant dans cette nouvelle formule. Autour de ces sujets-là. Je travaille aussi pour le média d'investigation Médiacité, qui est présent dans différentes métropoles en France. Je travaille au niveau national plutôt pour Reporter, le site spécialisé sur les enjeux écologiques, pour Politis aussi, et après d'autres. Là, on est aussi en train de monter avec une équipe de journalistes un nouveau média qui s'appelle Rural, et qui portera sur la couverture en fait des enjeux autour des ruralités dans les campagnes du Grand Ouest.
Alors rassurez-vous que Étienne Davodo n'est pas déposé le titre, hein, parce qu'il a un album qui s'appelle Rural. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, le site exactement, le site internet, c'est rural-le-média. Voilà, pour le retrouver.
Sauvé. Sauvé. Alors là, vous êtes dans une résidence. Moi, ça m'interpelle un petit peu. Vous êtes dans une résidence dont le titre, c'est « Écrire de nouveaux imaginaires », c'est ça ?
Oui, ça, c'était la grande thématique de l'appel à projet.
Oui. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui exerce la profession de rendre compte du réel, tout d'un coup, se trouver du côté du travail sur l'imaginaire, c'est-à-dire fabriquer du narratif ou de la fiction, ou comment vous abordez cette question-là ? Vous y avez réfléchi ?
C'est pas évident pour moi. En tout cas, les nouveaux imaginaires, quand j'ai répondu à l'appel à projet, c'était plutôt associé pour moi à ce qu'on imagine, à quoi le futur ressemblera, notamment sur des enjeux écologiques et sociaux. On retrouve vraiment mes thématiques. C'est comment le réel peut être transformé et s'adapter à ces enjeux cruciaux. Donc moi, je l'imagine plutôt comme ça. À raconter quand même du réel, mais plutôt à raconter ce qui change, ce qui bouscule et ce qui pourrait s'étendre en fait, ce qui aujourd'hui crée peut-être utopie, mais qui est pourtant bien concret, mais parce que c'est encore à la marge, et ce qui pourrait devenir plus dominant, ou en tout cas qui pourrait s'inscrire davantage dans le concret et se répandre, espérons-le.
Plutôt avec un axe prospectif.
Oui.
Mmh. Alors vous êtes nantaise. Mais pas que.
Oui, c'est ça.
Parce que dans mon canevas de questions, j'avais plein de questions. Et puis je me suis dit, bon, les gens qui débarquent dans les mots, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, en fait ? Mais vous êtes née où ? Enfin, vous êtes d'où ?
Ça, vous savez déjà la réponse. Mais oui, moi, je viens des Mauges.
Ouais. En fait.
J'ai grandi dans les Mauges, avec tout un petit circuit. Donc, ma commune d'origine, c'est le Fief-Sauvin. Et après, j'ai fait mon collège et mon lycée à Beaupréau, comme on dit chez nous.
Ah oui.
À Beaupréau. Voilà, avant de bouger dans d'autres villes en France, de découvrir d'ailleurs le monde urbain, le monde citadin. Qui m'avait créé des mals de tête les premières semaines, je me souviens. Voilà, et donc, du coup, pour moi, c'était une vraie envie, en fait, de répondre à cet appel à résidence pour pouvoir revenir sur le territoire après l'avoir quitté quand même pas mal de temps. Là, il y a un vrai plaisir à être de retour. En fait, dans mes paysages, dans une certaine forme de vocabulaire aussi, que parfois je retrouve. Il y a quelque chose de très apaisant, en fait, de retrouver ça. Et pour moi, c'est aussi, je pense, un souhait de revenir pour raconter ce que c'est peut-être ce territoire, en tout cas par un des biais, par le biais de quelques petits articles, mais en tout cas, par cette lorgnette, de peut-être aussi éviter certaines caricatures qui peuvent lui être associées. Parce que quand on dit qu'on vient des Mauges, beaucoup de gens confondent avec les Vosges. Et puis, le milieu rural, il y a quand même beaucoup de gens qui le dévalorisent, qui je pense, le caricaturent beaucoup. Et en fait, ça me fait de la peine. Mmh. Donc, j'ai envie de... Pour le nouveau média rural qu'on lance, on dit qu'on veut réparer les récits. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me donne envie de faire ça. Ouais.
Mais vous venez donc... Vous avez fait un parcours, hein, vous êtes issu de ce territoire, là vous êtes le fief Saint-Sauvin, on est au cœur des Mauges, là, hein,
oui.
On ne peut pas être plus au cœur des Mauges que ça. Vous allez vers la grande ville qui vous donne mal à la tête, et donc vous restez imprégné de ce territoire.
Ouais.
Est-ce que vous aviez, quand les souvenirs, parce qu'on ne peut parler que de souvenirs, est-ce qu'ils vous permettent de construire justement de projeter déjà ces nouveaux imaginaires ou de vous dire le territoire auquel je pense ou les territoires que je peux écrire, il serait comme ça parce que j'en viens, parce que j'ai les pieds dans la boue des chemins, de la campagne, que ce n'est pas péjoratif, qu'il faut le réparer, ce territoire, le recoudre pour qu'il soit intégré complètement au territoire national. Est-ce que vous aviez déjà une réflexion finalement là-dessus ?
Je ne sais pas, je pense qu'en tout cas, sur cet enjeu autour de réparer les récits, c'est peut-être cette idée de réparer les récits médiatiques, en tout cas autour de la ruralité. Bon, là, il y a quand même un cadre un peu spécifique. Moi aussi, j'ai mon propre cadre, comme le disait Antonin. Dans la résidence, en fait, elle doit donner lieu notamment à la rédaction de plusieurs articles avec un média partenaire qui s'appelle Novetic, qui est un média en ligne spécialisé justement sur la couverture des secteurs de la transition écologique et sociaux à travers un prisme économique. Donc ça, c'est un cadre quand même assez strict, là aussi, qui fait que les nouveaux imaginaires doivent s'inscrire dans cette ligne éditoriale. Je pars pas dans tous les sens pour répondre quand même à cette demande, à cette commande. Mais du coup, ça permet peut-être de voir aussi ce qui fait la spécificité du territoire et qui peut être intéressant pour un média qui est un média à portée nationale, en fait, qui n'est pas implanté sur un territoire. Et donc là, ça a donné lieu plutôt à un ajustement, à chercher ce qui fait la singularité du territoire d'un point de vue justement économique et comment, dans ce secteur-là, il peut y avoir des choses qui bougent et qui sont soit en marge ou qui essayent de répondre à ces nouveaux imaginaires ou en tout cas à ces enjeux écologiques.
Combien de temps dure cette résidence ?
C'est une résidence de 3 mois, 3 mois qui sont étalés dans l'année, sur l'année 2025-2026.
Est-ce que vous pensez que, est-ce que c'est pas stressant, parce qu'on calcule le temps quand on est dans une épreuve, parce que sans vouloir dramatiser, c'est malgré tout, il y a un challenge, il y a une deadline. Est-ce que vous êtes fabriqué un schéma dans votre tête ou
Non, je ne sais pas si j'ai de schéma. Bien sûr, en tout cas, qu'il y a la deadline de fin juin.
Oui.
Là, je suis dans mon deuxième mois de résidence et je vais revenir au mois de juin. Donc, il y aura cette deadline-là. Elle me paraît longue par rapport à ce que je fais d'habitude.
c'est un luxe, c'est royal.
C'est un luxe. Et c'est pour ça que les résidences de journalisme, c'est vraiment un luxe, effectivement, pour prendre le temps de rencontrer des gens sans savoir si directement cette interview va tout de suite nous servir, prendre le temps de se renseigner sur un sujet... Tout en ne sachant pas exactement quel va être notre angle journalistique. Donc, effectivement, ça, c'est un luxe. Mais dans cette résidence, il y a à la fois la production d'articles, mais aussi une partie d'éducation aux médias, qui est un des rôles qui m'a été assigné et des choses que je faisais déjà par ailleurs avant. Et donc, c'est vrai que ma première partie de résidence, je l'ai plutôt consacrée à trouver des partenaires et des structures avec lesquelles effectuer ces ateliers d'éducation aux médias. Donc là, je suis en plein dedans, quoi.
Eh bien, j'avais à nouveau prévenu que le temps était court, donc je vous remercie Mathilde Doisy, je vous souhaite une bonne résidence. Je suis curieux de voir le résultat parce que j'ai déjà vu d'autres résultats de la maison Julien Gracq, donc je suis curieux de voir le résultat. On va faire une deuxième pause musicale. Évasion avec Evigné, interprété par Nono Miwa. Vous êtes toujours sur Radio G et vous écoutez toujours Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Troisième invité du jour, Maud Thiria. Bonjour, bonjour Maud.
Bonjour.
Décidément, cette émission couvre un large spectre, hein, puisque avec vous, c'est de poésie dont il s'agit. Mais pas une poésie éthérée, en surplomb du monde. Vous, par la force des choses, c'est de la poésie engagée. Vous écrivez du point de vue des femmes et de la femme. C'est un acte militant ou c'est un acte libérateur ? La question est difficile,
deux,
vous allez dire.
Les deux, oui, forcément, j'allais dire les deux, oui.
Les deux, ouais.
Peut-être qu'au départ, il s'est agi d'une réparation par rapport à des violences que j'ai pu subir. Donc voilà. Au départ, il y avait un acte réparateur, mais je suis aussi artiste, donc la réparation pouvait passer aussi par l'acte de peindre. Mais en fait, les deux vont de pair. Mais voilà, je pense que peut-être qu'au tout début, il y avait ça. Et en même temps, en disant ça, je me rends compte que c'est un peu faux, parce qu'avant de faire des lettres, j'ai fait du droit. Et qu'en fait, je pensais vraiment défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit. Vraiment, voilà. Puis finalement, après ma licence de droit, j'ai fait des lettres. Et, bon. Donc, je pense avoir ce côté engagé, mais qui est un engagement. Alors, je ne sais pas si c'est au nom des femmes, oui, mais c'est surtout au nom de comment dire, contre l'empêchement à la parole. Donc, c'est peut-être pour des minorités ou pour des personnes invisibilisées, comme on dit. Ou empêcher dans leur corps, ou empêcher enfin, dans leur parole, dans leur vie en général. Donc, évidemment, en tant que femme, parce que je suis une femme, donc je me revendique comme femme, et puis j'ai écrit beaucoup sur le corps, donc voilà, je suis traversée par mon corps et par les paysages qu'il habite. Mais donc, oui, un engagement. Par exemple, la première scène sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris, c'était pas du tout pour lire ma poésie. C'était la première fois que je faisais une scène comme ça, parisienne, et c'était au moment de l'arrivée au pouvoir des talibans. Donc là, engagement.
Là, il y avait de l'engagement, là.
Ouais, ouais. Et surtout, il a fallu, j'ai eu une, grâce à Séverine Daucourt, qui connaissait bien le lieu, j'ai eu rapidement une salle, la grande salle. Et en 15 jours, il fallait que je rassemble des textes de poésie afghane féminine. Et alors là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de traduit ou même rien vraiment d'existant. Enfin, voilà, donc, il a fallu que je fasse des recherches très, très vite, que je trouve... j'ai rencontré une communauté afghane absolument géniale. Ça a été vraiment de très belles rencontres. Donc voilà, il y a les deux, préparation et engagement.
Mmh. Alors, on est en France, la France... et qui est le pays le plus brillant du monde et de l'univers, c'est bien connu, a une langue qui est une langue très particulière. Le masculin domine le féminin, c'est la règle. Hein, domine.
L'emporte,
mais moi je dis domine parce que,
oui,
j'ai,
vous avez raison.
Parce que j'ai fait des études, j'ai bien lu mon Bourdieu, donc la domination masculine, ça existe.
Vous avez raison.
Est-ce que c'est difficile de se déprendre des pronoms non genrés comme tu et on pour se réapproprier le pronom féminin elle?
Oui, c'est très difficile. Par exemple, mon premier livre, en tout cas chez Lanskin, qui est ce livre intitulé Troué, qui est pourtant sur la violence que j'ai subie. Donc c'est un livre qui ne raconte pas vraiment, mais qui est à l'endroit du corps. Dans ce qu'il ressent au moment où il étouffe. Donc, c'est un livre qui est difficile dans le sens où il n'a pas beaucoup de respiration. Au tout début, c'est mon éditrice qui m'a dit que je mettais tout au masculin des accords.
Je crois que je l'ai noté en lui.
Alors, j'écris au-tu, oui. Parce qu'en fait, j'écris presque toujours au-tu. Donc, évidemment, pour Trouille, on m'a dit le tu, ça correspond bien, parce que c'est le tu, le pronom, mais c'est le tu qui est tu, et c'est le tu, tu es. Alors, je dis, ah oui, c'est vrai. Parfois, on l'ignore ou je ne sais pas. Enfin, ça s'est fait comme ça, mais j'écris au-tu. Et le tu, je le genrais finalement d'une manière neutre. Ce qui est étonnant, parce que c'était justement un corps de femme qui subissait. Et en fait, c'est le premier livre où tout d'un coup, j'ai commencé à mettre des e partout.
En lisant Troué, je crois qu'inconsciemment, j'ai noté cette chose-là. Parce que quand on lit Troué, on est secoué. Hein. Enfin, on est pour le moins agité, on va dire, hein, parce que vous avez une poésie très, très particulière, en fait, qui nous touche, enfin, qui remue le corps. Enfin, moi, en tout cas, moi qui a remué mon corps. Mais il y avait quelque chose d'inconscient. Et puis, je l'ai refeuilleté. Et puis, c'est là où j'ai noté. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Quelqu'un qui a une posture, un engagement vraiment très fort a oublié de revendiquer jusqu'au début, finalement, que c'est une femme et que le « e » final, il compte, il est vraiment, il devient vital parce qu'il change notre regard de lecteur. Hein. Tout d'un coup, je ne vais pas dire qu'on devient femme, mais on lit autrement, avec le « e » final.
Oui, oui. Je pense que c'est aussi parce que je souhaitais rendre compte d'une violence, évidemment faite aux femmes, mais je parle de la sans-visage, en fait, au visage de toutes. Et en fait, au début, j'avais mis au visage de tous. Mais en fait, c'était parce que c'est vrai qu'on nous a appris finalement à, voilà, à ce « on » finalement, cet indéfini. Aurélie Foglia a sorti un très beau livre, a écrit un très beau livre qui s'appelle « On », où elle mais oui, chez Lanskine, où elle féminise le « on ». Et en fait,
c'est
très...
c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique.
Voilà. Mais c'était après trouvé, peut-être que ça m'aurait aidé à l'écrire mieux. Non, mais c'est intéressant parce que voilà, on a cette habitude d'écrire...
Alors, une question que je me suis posée en lisant trois de vos recueils, je me suis demandé si cet engagement très fort que vous avez ne fabriquait pas non plus une forme d'empêchement de la poésie. C'est-à-dire que concentré sur votre énergie de ce qu'il y a à dire et de ce qu'il faut dire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne rêvez pas peut-être d'écrire autre chose, finalement?
Alors, c'est intéressant parce que j'écris là, justement, vraiment autre chose.
Ah, je tombe juste.
Non, en fait, alors je me déplace quand même à chacun de mes livres. Parce
Oui.
Entre Troué et le dernier, Déshérente. Le Déshérente, il se passe à l'hôpital. A priori, je ne parle pas en gériatrie, je ne parle pas complètement de moi.
Ou même Falaise au ventre.
Mais c'est vrai qu'il y avait sans doute une voix peut-être particulière. Bon, on a toujours la sienne, je pense, plus ou moins d'un livre à l'autre, il y a quand même un parcours, mais en fait là, mon prochain livre qui s'appelle Langue Torse est vraiment un livre qui détruit tout, enfin qui explose les codes, donc oui.
La sulfateuse est arrivée au groupe.
Amusant comme question parce que je ne l'attendais pas. En fait, je suis passée par un texte en prose que j'ai écrit en 2022, à un moment où j'avais rien, enfin il y a eu le Covid, où j'ai travaillé justement à l'hôpital et puis en résidence. Et puis après, j'ai eu des mois un peu vides, un peu creux. Et j'ai commencé à écrire un texte en prose. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant en prose, j'avais une liberté en fait, de parole beaucoup plus grande, où je pouvais employer beaucoup plus de mots vulgaires. J'avais vraiment une liberté de parole. Voilà. Donc, et après, quand j'ai commencé à réécrire de la poésie, et ben, c'était fait, j'étais passée par la prose. Et donc là, je suis passée par la prose et je suis passée aussi par un mythe qu'on m'a fait découvrir. Quelqu'un qui avait lu Troué m'a dit, sur la couverture, il y a un oiseau. Je fais référence à un moment à un oiseau. Il y a peu d'images dans le livre, mais il y a un oiseau. Elle m'a dit, tu dois connaître forcément le mythe de Philomèle. Et je ne connaissais pas le mythe de Philomèle. Donc, livre 6, des Métamorphoses d'Ovide, qui est le mythe, ça va prendre longtemps, donc je vais simplifier.
Il faut le faire simple.
Voilà, en gros, c'est une femme qui se fait violer dans une bergerie par son beau-frère. Et pour qu'elle ne puisse pas raconter son histoire à sa sœur, il lui tranche la langue. Voilà, donc ça c'est vraiment très très gros. Mais bien sûr, puisque ça s'appelle les métamorphoses, elle va réussir à raconter son histoire en tissant son histoire. Donc, ça passe par autre chose que le langage, en tout cas la langue parlée, et déposer son tissage à sa sœur qui, découvrant l'histoire, la délivre de la bergerie où elle est enfermée. Toutes les deux se vengent en faisant manger son fils au prédateur, on va dire, au bourreau. Et pour échapper, donc à Théré, le fameux bourreau, elle se transforme en oiseau, en rossignol et en hirondelle. Il y a un rossignol qui s'appelle le rossignol Philomèle. Voilà. Donc, partant de là, de ce mythe, plus de la prose, je me suis dit, ben en fait, voilà, la langue a été tranchée. Comment est-ce qu'elle va repousser? Et là, elle pousse dans toutes les directions. Je me dis, voilà, on y va. Mmh. Et donc, c'est un texte qui, d'habitude, j'écris beaucoup par petits blocs sur la page, assez court, relativement court. Là, ça va, ça va même à l'horizontale. C'est très... voilà, la syntaxe est un peu explosée. Le mot « langue » revient, si ce n'est pas 1000 fois. Enfin, je pense que... Mais bon, on s'en lassera ou pas. Oui. Mais en tout cas, voilà. Et puis, il y a de la vulgarité, il y a de l'actualité, il y a de la mythologie, forcément. Enfin, tout ça. Et en fait, donc c'est à la fois très engagé, mais aussi très, très libéré.
Alors, grâce à vous, j'ai fait un exercice. J'ai regardé ma bibliothèque, le rayon poésie. Et j'ai compté le nombre de livres de femmes. C'est pas terrible. Hein. C'est proche même du catastrophique, on pourrait dire. Hein.
Et c'est impressionnant parce que c'est vous qui m'avez fait faire cet exercice,
Bah, tant mieux.
Bah oui, je me suis dit, je vais vérifier si elle raconte n'importe quoi, bien que je connaissais déjà la réponse objectivement. Mais j'ai fait cet exercice, puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais peu de recueils de femmes, en fait, tout bonnement. Alors, j'ai les classiques, les hommes qui sont bien installés, mais pas les recueils de femmes. Je suis même allé plus loin. Je suis allé feuilleter une revue qui s'appelait Poésie 1, et j'ai regardé la fin, et sur 50 hommes, il y a deux femmes qui sont présentes à l'intérieur du recueil. Donc voilà, ça dit tout. Et ça dit tellement que dans l'interview qui a été publiée de vous dans le recueil « Ce que les femmes font à la poésie », et là, plus simple que ça, on ne peut pas faire mieux, vous répondez, donc à la question « Ce que les femmes font à la poésie », vous répondez « Ce qu'elles font à la poésie, elles la défont ». Alors, allez un peu plus loin quand même.
J'aurais pu dire « elles la défoncent », mais c'est peut-être...
Bah, vous étiez partie
ouais,
sur...
Voilà. En
vous
fait, j'aurais écrit... Peut-être qu'après la prose...
Voilà, vous étiez partie dans la vulgarité, il faut y aller jusqu'au bout maintenant.
C'était cette idée justement de se désappartenir peut-être, désappartenir au système, à un système donné, défaire quelque chose. Parce qu'en fait, en tant que femme, comme en tant qu'homme, on a été éduquée, enfin moi à l'école, enfin je veux dire globalement, et même en université, j'ai étudié très très peu de femmes. Autrice, donc poétesse encore moins, mais j'ai autrice tout court. Donc en fait, on a un bagage intellectuel et on pense le monde à travers des récits d'hommes, et même les récits, j'allais dire mythologiques, sont écrits par des hommes, quelles que soient les versions, c'est des hommes. Donc pour moi, c'était l'idée vraiment de se défaire d'un système. Et puis ça me plaisait. Il y avait un côté qu'est-ce qu'on fait ? Ben on défait. Enfin, c'est mon côté insolent en fait. Je me suis dit cette réponse. Elle s'est venue tout de suite en fait. J'ai pas vraiment pensé. C'était très. J'ai répondu à cet entretien. J'ai très peu relu. J'ai relu un peu après pour corriger, mais vaguement.
Je me suis demandé si je devais aller jusqu'au bout de l'article parce que je me suis dit bon, elle a tout dit finalement.
Oui, en fait, j'aurais pu terminer la défonce. Point.
Alors on parle là, mais moi, j'aimerais vous entendre. Donc, j'aimerais que vous nous lisiez un ou deux textes, s'il vous plaît.
Alors, c'est un passage des Errantes, mon dernier texte que j'ai écrit donc, autour de dans un hôpital où j'étais 10 mois en résidence, en gériatrie, psychogériatrie. Et il y a plusieurs parties, une partie qui s'appelle les innommés, parce qu'on nomme plus grand monde. Et puis, y a une partie qui s'appelle « Mon nom est n'importe », en référence au western, et parce que voilà, ça m'importait. Mon nom est n'importe. On pourrait presque te croire tout droit sorti d'un western. Et d'un certain côté de l'horizon, c'est vrai, tu es vraiment bien à l'ouest. Désert à perte de vue, charognard, cactus, désir d'eau. Hôpital déserté, vue imprenable sur écran noir. Mon nom est n'importe, en relief, bloc de lettres sur télé H24 allumé, bloc de toit morcelé sur poste illuminé en soir de fête foraine, kermesse aux banderoles faites par petites mains bénévoles, décor de dancing de saloon sans happy end, boîte à musique sur fond de massacre. Il n'empêche, puisque n'importe est là, tout peut être projeté, hors séquence, déprogrammé. Les prévisions météorologiques, statistiques, linguistiques n'ont qu'à bien se tenir. Ici, où le moisi l'emporte sur la fraîcheur, le pourri sur la candeur, autant n'en emporte plus le vent depuis longtemps. Et devant ton cassoulet refroidi, tu préfères les tirs de flingue déglingués aux seringues silencieuses des tiroirs ordonnés. N'importe a déboulé, changeant les codes des portes, les touches des décodeurs des télécommandes défoncées, les touches des claviers où s'éteint l'alphabet. Une bulle de savon flotte encore, chèvrefeuille de saloon, au sucre glace des salles obscures.
Merci. Merci pour cette lecture. C'est important d'entendre les voix qui ont écrit. Je ne le lisais pas tout à fait comme ça. Enfin, moi, en le lisant, je ne lisais pas comme ça. Et à vous entendre le lire, je l'entends complètement différemment, en fait. Hein. Je vous remercie.
Merci.
Merci pour cette belle rencontre. Et je me retourne vers Margot. Margot qui est qui conduit, voilà, qui conduit les résidents dans ce studio, qui est, alors je ne sais plus votre titre, Margot,
c'est
coordinatrice, voilà, de la Maison Julien Gracq. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos? Parce que d'abord, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est pas le jour du printemps.
C'est pas le jour du printemps, c'est le printemps de la Maison Gracq. On a ouvert la maison au public ce matin à 10h pour notre saison maison d'été jusqu'au mois de novembre, qu'on célébrera un peu plus longuement samedi, avec un premier samedi à la maison. Pour cette maison d'été, avec du coup différentes actions, avec un atelier d'écriture avec Antonin qui est déjà complet. Le vernissage de l'exposition Archipel. Donc on va retrouver 11 artistes exposés.
Alors, elle dit le vernissage de l'exposition Archipel, comme si c'était évident. C'est une exposition fantastique. Il faut donner quelques mots sur Archipel. Oui, il faut en rajouter parce que il faut que moi je l'ai pas vu. On m'en a juste parlé et de m'en parler, ça m'a fait rêver. Donc il faut en dire deux mots.
Donc l'exposition Archipel, c'est une exposition d'une partie d'une collection de Alain Le Provost, qui est nantais, qui nous fait confiance en nous prêtant ses œuvres. On va retrouver du coup des œuvres de Jérémy Benquin, qui a déjà été exposé à la Maison Gracq, Olivier Debré, Fred Deux, Damien Dion, Marcel Duchamp, Charka Island, Francis Picabia, Claude Ruteau, Elisabeth Tonnard, Christophe Viard et Emmanuel Villard. C'est une exposition qui tourne autour du prisme de la littérature, de l'espace du livre. Il y a toujours un lien direct ou indirect à l'œuvre de Julien Gracq, par Breton, par le surréalisme, par les mots ou les livres qu'il possède. Et c'est vraiment, on va les monter depuis une semaine, et c'est un grand plaisir de la redécouvrir à chaque fois, de redécouvrir des indices aussi de certaines œuvres, parce qu'il faut aller chercher des indices, il faut se questionner, regarder, s'intéresser à ce qu'elles nous disent, pour certaines qui demandent à être un peu plus curieux que pour d'autres des fois.
Donc, belle exposition. Et un dernier événement, parce que là, on va arriver juste au fin de...
Oui. Alors, du coup, la journée se termine... Enfin, la
samedi.
Journée du samedi, le vernissage. Oui. Une rencontre, du coup, entre trois personnes autour des correspondances de Gracq et de Breton. Donc, Agnès Marceau-Topol, qui a été la directrice de la bibliothèque de Nantes et du musée Jules Verne. Clément Gassler, qui est conservateur du patrimoine... et qui participe au projet de la création du Centre international du surréalisme à Saint-Cyr-la-Popie, où il y a la maison André Breton, et Laurent Doucet, qui est le président fondateur de l'association La Rose Impossible, donc qui porte le projet de la maison Breton. Voilà. Et Antonin, qui fera une lecture aussi d'extraits de Rue des Batailles, accompagné par Solène Cosma, qui est violoncelliste.
Très bien. Solène Cosma, ça me dit quelque chose, ce nom. Elle a joué dans.
Elle a joué dans beaucoup
dans
de
Babel.
Choses.
Elle...
Dans Babel, c'est possible. Elle a participé à beaucoup de projets.
Merci Margot, le temps est compté. Et puis là, il va falloir que je défile tout à une allure phénoménale. Donc, entre les pages pour la 173e fois, c'est fini. Avant de laisser la place au magazine Topette, un petit coup d'œil sur l'agenda. Je ne reviens pas sur la réouverture de la maison Julien Gracq et sur l'exposition Archipel, que vous devez évidemment aller voir. Mais le 9 avril à 19h à la librairie Lériot, c'est Alban Genet qui est en résidence à la Miel 49 qui sera accueilli. Le 9 avril, c'est demain. Et le 20 avril, sortie aux indispensables éditions pneumatiques du recueil de nouvelles Le présent latéral, suivi de Ange prédateur de Olivier Silve. Enfin, il me faut parler de l'Entre autres, festival organisé par la librairie Myriagone pour son 10e anniversaire. Ce sera du 16 au 20 juin. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a un appel à financement participatif sur Litchi. Vous trouverez toutes les informations sur le site, sur la page de l'émission. Au cours de l'émission, vous avez entendu Deva Harl qui a chanté Crash et Nono Miwa qui a chanté Évigné. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 22 avril à 17h. J'accueillerai une poétesse germano-française, Francisca Beyer-Lalauret, et puis Claire Gonzalez qui est relieuse. Je laisse maintenant la place au journal de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.